Bonjour à toutes et à tous. Le thème des nouvelles vagues, en effet, cette semaine, c'est construire. Demain, construction, déconstruction du texte, du poème, de la phrase. Mercredi, passion ludique, ce sera la construction dans les jeux vidéo qui nous intéresseront. De César 3 à Minecraft, au moins. Jeudi, une bande dessinée met en scène des adolescents pour qui se construire n'est pas chose facile. Et enfin, vendredi, montage, rythme sont au programme de la carte blanche cinéma. Voilà pour le programme. Aujourd'hui, l'art de construire en riposte à l'art de détruire. L'enfer des vivants n'est pas chose à venir. S'il y en a un, c'est celui qui est déjà là. L'enfer que nous habitons tous les jours, que nous formons d'être ensemble. Il y a deux façons de ne pas en souffrir. La première réussit aisément à la plupart, accepter l'enfer, en devenir une part au point de ne plus le voir. La seconde est risquée et elle demande une attention, un apprentissage continuel. Chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer, et le faire durer et lui faire de la place. Les villes invisibles d'Italo Calvino, dont ce texte est extrait, est publié en français dans une traduction de Jean Thibaudeau en 1974, au Seuil. Et de cet extrait, je retiens plus que tout l'attention et l'apprentissage continuel. Il est 14h passées de 2 minutes, vous écoutez France Culture, bienvenue à tous dans les Nouvelles Vagues. Et ces nouvelles vagues, nous pensons qu'elles sont souvent, pour ne pas dire toujours, le fruit d'expériences marquantes. C'est pourquoi nous demandons à une personne chaque semaine de sonder ses souvenirs à la recherche de ces moments-là. Cette semaine, Rada Atem se prête à l'exercice. Elle est gynécologue obstétricienne. Elle est à l'origine de la Maison des Femmes qui ouvrira ses portes en juin, tout près de l'hôpital de la Fontaine à Saint-Denis, en Île-de-France. Il s'agira d'un espace de dialogue, d'accueil, d'information, de prévention autour des mutilations sexuelles et d'autres violences faites aux femmes. Aujourd'hui, hasard heureux de la programmation, Rada Atem nous parle des villes où Orient et Occident se touchent, des villes qu'elle aime particulièrement peut-être parce qu'elle a grandi à Beyrouth. Géographie sensible vers 14h45. C'est le premier moment d'une semaine consacrée au verbe construire. Et le premier moment est un moment de regard et d'attention à ce qui se construit dans les villes, dans les alentours des villes, dans les campagnes, au-delà des ostensibles chantiers, attentifs aux abris de sacs et de palettes, aux cabanons, aux bancs, aux mini-places, aux grandes places. Observer cela, c'est déjà regarder autrement ceux qui, dans des situations d'extrême précarité, construisent. C'est les regarder à partir de leur puissance. Observer cela, c'est attester que des lieux que l'on rase, camp de Ris-Orangis, zone sud, camp de Calais, sont des lieux de vie bâtis, organisés, décorés. Partir de là, c'est très vite questionner les sommes et les énergies engagées dans leur destruction. Considérant qu'il est plausible que de telles destructions puissent à nouveau survenir, autant y réfléchir à plusieurs. C'est ce que propose un livre paru au Post-Édition et qui propose à différents auteurs de relire un arrêté municipal d'expulsion. C'est aussi ce que propose un vrai faux magazine municipal de Calais, l'une des facettes du projet Réinventer Calais. Réfléchir, agir et construire à plusieurs, c'est ce que propose le collectif Le Pérou, auquel vous appartenez. Stéphane Thierry, bonjour.
Sébastien, merci. Oh, bonjour.
Voilà, ça peut continuer. C'est-à-dire, vous pouvez peut-être vous appeler Paul ou
absolument.
Alain. Soyez préparés. Parce que voilà. C'est vraiment l'une de mes spécialités, surtout le lundi.
Puis comme on travaille sur la fiction, il n'y a aucun problème.
C'est possible.
Absolument.
Bon, très bien. Donc Sébastien, Alain, Thierry, bonjour. Et puis Charlotte Cower, vous appelez comme ça?
Parfaitement.
Définitivement.
Oh, ça on sait pas.
On verra. Ouais. Bonjour à vous.
Bonjour.
Considérant que le risque en matière de circulation routière à l'égard des occupants peut également survenir de la RD 310, le campement se situant en contrebas du grand virage de cette route départementale, voie à double sens. Considérant que cette voie ne fait l'objet d'aucune restriction de circulation pour certains types de véhicules, notamment les poids lourds. Considérant que la fin du virage de la RD 310 ne comporte aucune glissière de sécurité. Considérant que si un conducteur perd le contrôle de son véhicule à la fin du virage, le véhicule, en l'absence de tout dispositif de sécurité, terminera donc sa trajectoire sur le campement. Considérant que le risque d'accident de circulation résulte également du stationnement de véhicules sur le bas-côté et des allées et venues des occupants du campement procédant à des opérations de déchargement des véhicules. Considérant par ailleurs que les conditions d'installation du campement représentent pour les occupants un risque manifeste pour la sécurité des personnes. Considérant que le nombre croissant d'occupants de ces campements occasionne une plus grande promiscuité, surtout une réelle proximité des cabanons de fortune installées sur les parcelles AC43, 45 et AC9 avec un risque de tension et de rixe in situ. Considérant que par ailleurs la police nationale est intervenue en début de la semaine du 11 mars 2013 du fait d'un différend entre deux occupants du campement ayant donné lieu au recours à une arme de poing factice à partir de laquelle il a été asséné des coups de crosse. Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir. Considérant qu'au titre des conditions d'installation du campement...
Voilà, ça dure encore pendant quelques minutes, c'est parce que cet article fait 8 pages, ce document d'expulsion dont je mentionnais l'existence tout à l'heure, qui est le point de départ à la fois du film dont on entend un extrait sonore, mais aussi du livre publié aux éditions Post-Édition. De quoi s'agit-il ?
Il s'agit d'une littérature que l'on n'a pas coutume de considérer, d'un arrêté municipal publié le 1er avril, ce qui n'est pas une blague, en 2013, à Ris-Orangis, en vue de mettre en œuvre l'expulsion du bidonville dans lequel nous travaillions à l'époque. C'est une littérature, donc comme tout texte de loi, comme son nom l'indique, qui est à lire, qu'on ne lit pas. Donc on a proposé à Yves-Noël Genot de le lire et de le concevoir comme étant le fond d'un travail à la fois d'écriture et cinématographique. Pour entendre, essayer de comprendre, c'est-à-dire que c'est aussi signé par un représentant de la République, un élu. Donc nous sommes compromis avec le texte par définition, donc comment entendre ce qui s'y dit, comment le comprendre, comment le faire nôtre d'une certaine manière, et aussi, ce faisant, l'incorporant, comment le déconstruire par la compréhension et comment... en explorer toutes les aberrations, toute la folie, pour effectivement reconstruire de la pensée autre que ce que dessine ce texte, qui n'est que de la destruction, que de l'absurdité, que de la violence faite aux hommes, aux femmes, aux enfants qui vivent là.
C'est un texte qui arrive quelques jours, 3 jours avant, il me semble, que des appareils viennent raser un camp à Ris-Orangis. C'est un camp au milieu duquel existait l'ambassade du Pérou, non pas du pays, mais du collectif. Quand est-ce que vous vous étiez installé, sous quelle forme, et pour y faire quoi ?
L'ambassade est restée debout, 100 jours exactement, inaugurée le 22 décembre 2012. C'était un premier acte, d'autres ont suivi, d'actes de construction, mais en entendre au sens très très large du terme, construire des représentations, construire des récits, construire aussi de l'espace, et commencer par construire de l'espace. Et notamment, la fonction de l'ambassade était, donc littéralement, c'est représenter. C'est aussi, donc du coup, présenter autrement au monde ce qui a lieu là, ce qui fait lieu là. C'est donc un organe diplomatique. Et c'est un organe aussi de liaison, d'articulation entre la ville et le bidonville. Donc ça n'était non pas un espace commun pour le bidonville, mais c'était un équipement public que l'on a conçu pour la ville. Comment faire hospitalité à celles et ceux qui sont dans la ville de Ris-Orangis et qui souhaiteraient venir là, qui ne trouvent pas le chemin jusqu'alors pour venir là. Donc autant des associations, des groupes de riverains, etc., qui sont venus donner des cours, qui sont venus faire la fête, qui sont venus faire des réunions publiques, etc. Donc c'était comment construire un seuil et ainsi désarticuler l'opposition irritée entre la ville et le bidonville, entre le légal et l'illégal, entre le sain et le malsain, etc. Donc on travaille, ça fait partie des perspectives du Pérou, peut-être de rendre un peu plus confuse la dramaturgie, en tous les cas d'altérer les catégories et d'essayer d'inventer d'autres articulations.
Elle ressemblait à quoi l'ambassade du Pérou ?
À une ambassade, bien sûr.
Elle ressemblait à une chapelle, à une salle de classe, elle ressemblait à un foyer, elle ressemblait à une maison sur pilotis, elle ressemblait à une baraque aussi. Et c'était aussi une manière pour aller observer ce que c'est que l'hospitalité, demander l'hospitalité à ces gens pour après pouvoir comprendre leur manière de nous faire hospitalité et nous-mêmes se mettre à pouvoir commencer à observer et à comprendre ce que nous pourrions inventer ensemble en termes d'hospitalité.
Alors, puisque Sébastien Thierry parlait à l'instant de diplomatie, comment s'est négociée l'installation de l'ambassade du Pérou ? Sur quelle base de discussion ? Et qui a construit cette ambassade ?
Elle s'est négociée à coup de chantier de nettoyage de détritus, Elle s'est négociée à coups de café et de thé dans les baraques, puisque il n'a pas été difficile pour eux de nous faire hospitalité. C'est quelque chose qui s'est fait de manière assez festive. On a d'abord été quand même invités par une association qui nous a présenté et introduit. Et ensuite, la négociation s'est faite chemin faisant, peut-être en installant un bastin ensemble et puis en déchargeant un camion. Et c'est le chantier qui a été l'objet de la négociation presque.
On a aussi fait, on inaugurait le 22 décembre, je crois qu'on y était dès le mois de septembre. Au café, au thé, essayer de comprendre et de définir ce que l'on pouvait construire ensemble. Et on a dessiné une bande dessinée quelques semaines avant le début de la construction, qui est pour nous aussi toujours un chemin extrêmement important. La fiction. C'est-à-dire que la bande dessinée, elle racontait un an et demi de construction ensemble. Donc elle établissait une sorte de plan sur la comète où on s'est raconté, et puis une bande dessinée qui était traduite en roumain aussi, qui a été racontée, diffusée à tout le monde, et sur la base de laquelle on a discuté et affiné les plans, et qui racontait un an et demi de travail ensemble, de construction de relations de travail, d'amour, d'amitié, de je ne sais quoi, qui parlait de nettoyage, de ce lieu à venir, de construire des toilettes sèches, etc. Et qui racontait, c'est important, c'est-à-dire qui racontait aussi, dans la dimension diplomatique, la disparition du bidonville. C'est-à-dire que l'idée était de se raconter que le chantier, justement, allait générer des relations, y compris donc des relations de travail, puisqu'allaient venir ici des riverains, d'autres riverains, d'aller s'établir d'autres relations avec les acteurs publics, etc. Et que peu à peu, les familles allaient pouvoir sortir du bidonville. Et donc, ce que l'on racontait, c'est que fur et à mesure que les baraques allaient se vider de leurs occupants, puisque ceux-ci allaient rejoindre la ville, nous allions installer une balançoire. Donc, c'était une fiction aussi. On était parti des gosses aussi, de leur capacité à inventer des histoires, à prendre un terrain vague et en faire et à le peupler de plein de choses, et on s'était raconté donc qu'au fur et à mesure on allait construire une espèce d'aire de jeu pour enfants.
Et le on, c'était un on commun, c'était entre vous et les habitants du bidonville de Ris-sur-Angis.
C'est pareil, c'est-à-dire qu'on dans l'histoire d'altérer les catégories, à un moment donné celles-ci ne tiennent plus beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'entité habitant du bidonville, puisque tout ceci se configure et se reconfigure. Il y en a parfois qui sont tout à fait
dernière nouvelle, vous ne viviez pas dans le bidonville de Ris-sur-Angis.
Mais beaucoup bien sûr, comme des riverains étaient là, c'est-à-dire que c'est aussi dans la confusion, on partage un temps et un espace. Après, évidemment, les modalités de ce partage sont différentes en fonction des histoires, mais je veux dire qu'il n'y a pas d'entité habitant du bidonville, surtout il n'y a pas de position commune comme un seul homme. Tout ceci se s'invente au fur et à mesure. Donc des fois on est 200 à construire, des fois on est 2, et les choses s'inventent encore une fois chemin faisant et pas à pas dans cette incertitude là qui est aussi vraiment une des qualité ou caractéristique de ces situations-là. Nous œuvrons en incertitude et avec toute l'incertitude que connaît ce genre de situation. C'est pour ça que l'on trace des plans sur la comète et que l'on tire d'une certaine manière ces histoires-là sur un an et demi, absurde d'une certaine manière, mais qui raconte aussi une volonté de penser l'occupation. Non pas comme une dégradation du trésor public, du territoire, mais comme une stratégie de valorisation et de qualification de celui-ci. Comment occuper un bidonville peut être une manière de générer, de rêver une aire de jeu pour enfants rendue à la collectivité. Comment on fait apparaître un terrain, comment on fait apparaître un programme, une idée, une possibilité, y compris pour celles et ceux qui ne sont pas dans le bidonville. Donc c'est aussi retourner ces fables d'opposition, corps à corps, de corps étrangers, justement, et de se dire qu'un bidonville peut être une chance pour une ville aussi, peut générer de l'équipement public, peut générer de la ville, y compris pour celles et ceux qui ne sont pas dans le bidonville a priori.
Alors vous parlez d'incertitude, c'est une incertitude qui trouve sa fin par un moment de certitude, puisque des bulldozers arrivent, des CRS arrivent et ce camp est rasé. C'est quelque chose avec lequel vous avez composé au moment même où vous avez construit l'ambassade du Pérou, de même que beaucoup de choses sont construites avec l'horizon de leur destruction. Hein. Vous écrivez qu'il y a certains plans de maisons, de cabanes, d'organisations autour des caravanes qui comprennent en eux-mêmes le plan de leur destruction. Cependant, comment vous avez vécu, vous et les personnes qui vivaient à Ris-Orangis, ce moment de destruction ? Charlotte Coller.
Nous avons beaucoup appris de du calme avec lequel ils prennent la destruction, qui était beaucoup plus serein que ceux des militants et des associations autour. Donc on a réinscrit la destruction et le déménagement dans une histoire qui se reproduit, qui fragilise bien sûr à chaque fois, mais qui pour eux est devenu presque effectivement un système de savoir comment vite tracer la ressource d'après pour pas trop s'éloigner de l'école pour les enfants, pour pas trop perdre de temps à reconstruire. Donc on a plutôt été dans une histoire qui se prolonge plutôt que l'idée de penser que quelque chose s'arrête. C'est vraiment, ça renforce presque le récit que l'on écrit avec eux plutôt que d'imaginer que c'est la fin d'un territoire. Mais en tout cas, le territoire lui-même, comme disait Sébastien, va devenir quelque chose d'autre. Autant que si l'histoire c'était prolongé, s'il n'y avait pas eu destruction, il serait devenu quelque chose. Mais là, avec la destruction, il va aussi devenir autre chose. Il y a des infrastructures qui sont mises en place après une démolition, des gros rochers, des cailloux, des terrassements. La ville a été, elle va avoir une cicatrice de ce qui a eu lieu. Donc, comment est-ce qu'on en prend conscience? On la raconte, on l'observe aussi. Et puis, encore une fois, la suite avec les familles.
Justement, on parlait en début d'émission de l'attention, en reprenant les mots de Calvino, de l'attention. Moi, j'aurais ajouté aussi le regard. Vous êtes rendu, j'imagine, attentif à ce qui était mis en œuvre dans ce moment de destruction, en se projetant, alors là, dans un sens inverse, vers de la reconstruction. À quoi étaient-ils attentifs, ces personnes qui vivent à Ris-Orangis, qui vivaient dans ce camp-là? À quoi se préparaient-ils en vue d'une reconstruction d'autre chose?
Ils étaient attentifs à garder les liens qu'ils pouvaient avoir avec le territoire, c'est-à-dire les amitiés, les ressources de financement pour aller faire de la ferraille, etc. Ils étaient attentifs à alors il y a pas vraiment d'attention au niveau mobilier, spatial, etc. C'est des choses qui restent pas. Ce qui va rester, c'est l'ancrage plutôt vraiment sur les ressources territoriales et familiales qu'ils ont créées, pour des questions de survie et pour des questions de confort. Voilà.
Oui, et puis enfin l'histoire effectivement raconte de juste rappeler que c'est Julien Belair, architecte, avec lequel nous avons construit l'ambassade. Premier point, deuxième point, des questions un peu des points précis sur ce que disait très justement Charlotte sur sur finalement comment la position des familles renvoie à son extrême absurdité, banalité, l'acte de la pelleteuse qui ne produit rien d'autre que la répétition du même. Donc c'est vraiment, on a chiffré au CRS près le coût d'une destruction, de la destruction de risque, qui est 350 000 euros. Donc la collectivité engage 350 000 euros pour détruire des habitats, pour violenter des personnes, autant que faire se peut, des personnes qui se reconstituent un bidonville à 500 mètres de là, dans certes la commune voisine, ce qui peut être effectivement une ambition très forte de la commune en question. Mais c'est tout. C'est-à-dire que, et ce que nous racontent effectivement les familles, c'est que rien n'a eu lieu, dans le fond, et que l'on a dépensé ces 350 000 euros pour rien. Pour rien, sinon pour enfoncer un peu plus les personnes. Donc il va falloir reconstruire, réélaborer, mais en sachant, comme le dit Charlotte, que l'essentiel est là, c'est-à-dire que c'est les liens tissés et de ces constructions immatérielles avec un territoire, avec des hommes, avec des personnes tout autour, qui demeurent et voilà, et voguent la galère avec une puissance publique qui est complètement à côté de ce qui s'invente, de ce qui se construit, et qui effectivement, pour le coup, n'est pas du tout attentive à tout cela.
Dans cette mise à l'écart, il s'est passé quelque chose qui se passe ailleurs dans le monde, dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire que petit à petit, les gens n'ont pas choisi ce lieu, ils ont été mis là de force, mais bon, ils s'en accommodent, puisqu'ils n'ont pas le choix. Et donc les tentes ont été transformées, ont été remplacées par des abris avec des armatures en planches, avec des plastiques plus solides. des organisations, non pas des ONG, mais des associations, des groupes de volontaires, d'aidants, comme on dit, ou des groupes plus politiques, sont venus et ont petit à petit fait aussi de ce lieu un lieu symbolique de ce qui pouvait se passer avec cette présence d'étrangers qui avait été mise à l'écart et qui pouvait être aidée et dont on pouvait rendre la vie meilleure sur place de ce camp même. Et c'est ça qui a fait que les choses se sont transformées. Il y a eu une église ou deux églises qui ont été construites, une ou deux mosquées, deux écoles, un centre de soins, un centre d'accompagnement juridique, des restaurants, des très bons restaurants, j'y étais. Je vous assure que les Calaisiens devraient se réjouir d'avoir certainement parmi les meilleurs restaurants afghans ou iraniens qu'on peut trouver en France. ما تخيلي السمح قول استعجلي ما تخيلي السمح قول استعجلي عطشت قلبي وكل يوم تجملي اديني كلمة وسامحيني وطويلي كبرت ولدت 19 سنة عمر الزهور عمر الغرام وعمر المنى عمر الزهور عمر الغرام وعمر المنى أتمنى يوم تجمعنا أجنات حبنا تبقي الأميرة والبطيع قلبي أنا ما تخجلي السمح قول استعجلي ما تخجلي
Je vous demande avec moi de lancer un appel aux créateurs, architectes, urbanistes, afin que notre ville prenne l'envergure d'une utopie du XXIe siècle et s'avance au devant du monde comme son avant-garde. Nous sommes sur le seuil d'un immense renouveau. Je vous demande de vous engager pleinement dans celui-ci avec moi. Nous ferons alors un miracle. Ensemble, nous réinventerons Calais. C'est un extrait de l'édito, un édito que n'a pas fait la maire de Calais, dans un magazine municipal qui n'a pas été publié par la mairie de Calais, ni par la région, mais inventé et réinventé par vous tous, par le collectif Pérou, par ceux qui travaillent autour de cet endroit à Calais où vivent bien des gens et où se construisent des restaurants. On l'entendait à l'instant dans la voix de Michel Agier qui s'entretenait avec Ruth Stegassi le 12 mars dernier sur France Culture dans l'émission Terre à Terre et qui disait la chance de pouvoir disposer en France dans cet endroit d'un des meilleurs restaurants ou des meilleurs restaurants iraniens. C'est évidemment pas exactement ce qu'on entend régulièrement à propos de cet espace à Calais et c'est ce qui souligne le geste collectif que vous proposez, que d'autres proposent, qui est de commencer par retourner le regard et de travailler à d'autres représentations. C'est à la fois une décision, une posture au beau sens du terme, mais c'est quelque chose qui s'est imposé à vous en arpentant Calais de partir de cette puissance de construction, Charlotte Cower.
Ce qui s'est imposé à nous, c'est d'abord le fait d'essayer de comprendre pourquoi certaines personnes ont refusé de partir de la jungle. Et donc aller voir ce qu'il y avait dans cette jungle hein, qui retenait les personnes, puisque effectivement très rapidement les premières personnes que l'on a rencontrées étaient des personnes qui voulaient rester plutôt que des personnes qui voulaient passer en Angleterre. Donc c'est une expérience qui est évidemment basée sur du vécu et pas sur des statistiques ou des choses que j'ai entendues. Et c'est comment est-ce que aller voir là-bas et comprendre ce qui a lieu permet de fabriquer d'autres récits que ceux que d'autres personnes peuvent raconter. Donc par nos multiples regards, observations, effectivement, plusieurs choses ont apparu. Effectivement, la question des commerces, du business qu'il y a là-bas, des restaurants fabuleux, des hammams, des douches, des coiffeurs, etc. C'est aussi la forte envie et besoin d'hospitalité, d'accueil qui fait vraiment force là-bas. Et comment est-ce que c'est la première chose qu'ils disent quand ils veulent parler de liberté, c'est laissez-nous vous accueillir et nous faire du café. Et quand on leur interdit d'avoir une bouteille de gaz, c'est aussi démoralisant que l'expulsion de la zone sud. C'est-à-dire que s'il n'y a plus ces rencontres-là, il est plus difficile de cheminer dans la culture française, d'imaginer, d'avancer dans la compréhension de notre pays dans lequel certains ont envie de rester. Et puis il y a également la communauté qui est là-bas est une vraie force. Et la vie en communauté, qui prend vraiment différentes formes, hein, puisqu'il y a des communautés de différentes ethnies, différents pays. Et donc, pour nous, c'est un foyer d'observation de comment vivre en communauté, qui n'est pas la même communauté chez les Soudanais que chez les Éthiopiens, que chez les Afghans, etc. Et ensuite, la ressource et la force que c'est contre la dépression de nos villes, que ces gens qui se soutiennent, qui font ensemble et qui même dessinent l'espace en conscience de ce besoin d'être ensemble.
C'est-à-dire, en donnant des exemples, puisque par exemple, Cal et Mag, ce faux magazine, en donne plan à l'appui, dessin à l'appui. Comment s'organisent en conscience ces espaces ?
Il va y avoir, par exemple, des baraques qui tournent autour d'une courée. Et cette courée est en fait tenue par un foyer central à l'abri du vent et qui est vraiment un espace d'accueil qui dit bienvenue. Parfois il y a même un écriteau bienvenue à l'entrée et qui dit venez comprendre qui on est et nous expliquer qui vous êtes, venez boire du café, venez vous réchauffer. Et donc ces espaces ils prennent différentes formes, encore une fois parfois ils sont très publics, parfois ils sont très privés, mais en tout cas à chaque fois c'est un espace qui est fait pour l'autre, tout comme il y a des chambres d'amis qui sont pas la chambre d'amis d'une personne, qui c'est une communauté qui fabrique cet espace pour l'autre venu d'ailleurs, pour l'ami ou l'ennemi, je pense que ils n'ont pas attendu d'être mon ami pour m'accueillir et c'est comme ça qu'on est devenus amis. C'est parce qu'ils ont d'abord
construit un espace qui était un potentiel accueillant,
je pense.
Toujours dans ce premier temps de regard et d'attention, Sébastien Thierry, qu'est-ce qui a attiré votre attention dans les constructions qui existaient la première fois que vous avez traversé cet espace à Calais?
Premier point, je pense que là, vous le disiez bien depuis le début, vous l'avez répété, la question de l'attention, elle est première chez nous. Et plus que ça, c'est-à-dire que c'est presque une position méthodologique qui est liée d'ailleurs à Gilles Clément, qui est président du Bérou, de l'association, hein, qui a écrit plusieurs textes qui nous sont effectivement très très importants et chers. La dernière exposition de Gilles s'intitulait « La vie qui toujours invente ». Et donc ça, c'est quelque chose aussi à quoi on est extrêmement attentif dans l'idée, comment dire, que on ne s'en sortira pas si on ne met pas en œuvre et une pensée et des formes d'une politique de l'affirmation. Et donc ça, c'est quelque chose qui parcourt toutes nos actions, c'est-à-dire à quoi pouvons-nous dire oui à Calais comme ailleurs, et comment inventer des positions, des actions, des réponses, des politiques publiques qui partent de cette affirmation. À quoi pouvons-nous dire oui à Calais ? Alors quand on traverse pour la première fois la jungle, on est évidemment estomaqué par ce qui s'invente, par ce qui s'affirme, quoi. Et pas simplement de construction. Alors on pourrait faire le détail, l'inventaire des 5 boîtes de nuit qui sont aujourd'hui en place dans la zone nord, des églises, des restaurants, des 7 boulangeries, etc., etc.
Je crois que c'est un inventaire important.
Oui, c'est un inventaire important, mais il ne faut pas oublier dans cet inventaire les centaines d'Européens, de jeunes Européens qui sont au quotidien présents à Calais, qui occupent depuis début octobre l'auberge de jeunesse plein pot, le camping, les Airbnb, etc. C'est une ville qui est extraordinairement active, c'est une ville qui est une capitale, voire la capitale de l'Europe aujourd'hui. Ceci fait partie de ce qui se construit. Se construit aussi une autre idée de l'Europe. Se construit une autre idée de la ville, du chantier, une autre politique. C'est vraiment une nuit debout, un jour debout. C'est une vie debout constamment. C'est une place qui est extrêmement rayonnante de cela. Et nous sommes collectivement, finalement, subjugués, fascinés par le pire. Et vous n'avez pas un acteur public qui, à une question comme celle-ci, vous répondra qu'il y a de la boue et que c'est effroyable et que, en tant qu'élu, mais aussi en tant qu'homme ou en tant que femme, on ne peut supporter que les gens vivent dans la boue, donc il faut effectivement démanteler. Ce que disait, je crois, la préfète lors d'une émission diffusée sur cette même antenne chez Laure Adler il n'y a pas longtemps. D'où vient cette fascination du pire? Ces positions-là dérèglent la pensée et rendent illusoire tout autre possibilité de penser et de regarder. Ceci vient d'une part que la préfète, comme tant d'autres, n'ont pas risqué leur corps dans ce réel-là, parce que je crois que on se fait emporter, par définition, quand on va là-bas, quand on passe du temps là-bas, on se fait emporter par cette puissance. Et donc, on voit bien que tous les acteurs publics tournent autour de la jungle. La mère, il serait passé 17 fois, elle a juste fait le tourner autour. Juppé y est passé, il est resté sur le chemin des dunes, etc. Comment risquer son corps là, et comment risquer de se faire emporter par cette évidence-là, que quelque chose a lieu, que quelque chose fait lieu, et que être attentif à ça, c'est le seul moyen, nous le pensons, mais nous sommes même convaincus, le seul moyen de sortir du marasme dans lequel collectivement nous sombrons.
Ah pardon, excusez-moi, je n'avais pas...
Non, puisque l'inventaire peut être important, je peux quand même raconter qu'au 10 avril, il y avait 52 magasins, 4 mosquées, 20 restaurants, 2 coiffeurs, 3 coiffeurs douches, 7 boulangeries, dont un qui cherche un investisseur pour ouvrir une boulangerie à Calais ou à Paris, que j'ai rencontré, mais peut-être qu'il y en a plus. 4 boîtes de nuit, 2 réparateurs de vélos, 1 ou 2 églises, le ramassage d'ordures, de la voirie qui a été faite par des associations ou la municipalité, et bien sûr des bibliothèques, une infirmerie, un centre juridique qui a été démoli. Effectivement, beaucoup plus de restaurants avant la démolition de la zone sud, puisque c'était l'essentiel de ce qui composait la Main Street de la zone sud des restaurants, donc tout ça a été démoli, mais il en reste quand même 20 plus 52 magasins. C'est pour dire la puissance de reconstruction qu'ils ont encore, et la densité de magasins et de restaurants par habitant qui est... donc on a, par exemple, 238 habitants pour un restaurant à la jungle, alors qu'à peu près 500 habitants pour un restaurant à Calais. Donc c'est une économie florissante qui peut même soutenir celle de Calais.
Il y a 3 écoles aussi.
France Culture, les nouvelles vagues, par Marie Richeux.
And hate runs through my blood. Well, my tongue was in love, but my heart was left above. I've got to be leaving now. I thought I'd never be shut down. But girl, I'm black and blue, so bitter down to you. Well, I'd be turned down in blue. Don't break away. I'll waste away. Don't break away. Lay me out across the grave. Hours I should have kept her, babe. Well, I had no chance to get away. I can't escape my own escape. Even more when it's sweet to the taste. Red stairs lead sense astray. I look up and seek for fate. I'm a girl, just lean over and say, who laid me down. Ooh, I pull me out. You take my crown again. She's merged in doubt. But wait, I'll make my last request. See, this could be the best. But blue, I need to rest. See, I've been broken down. So much has lost it now. I just stop and say, girl, ooh, don't you worry about a thing.
Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple, accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom à la limite, sans parler de son passeport et de ses papiers, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille, ça c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible.
C'est la voix de Jacques Derrida que nous jugerons impossible mais auquel nous penserons, voire qui fera une force après la voix de King Cruel, ici une archive de 1997, Jacques Derrida au micro de l'émission Agora diffusée sur France Culture. Vous disiez tout à l'heure, Sébastien Thierry, que finalement instaurer l'impossible, alors d'une toute autre façon que celle de Derrida, c'est qualifier les autres possibilités et les autres propositions comme étant des propositions de l'illusoire. J'imagine que ce sont des choses qui vous sont parfois retournées dans le travail que vous faites de construction à Calais, mais aussi dans le sud de la France ou alors, ou alors en Ile-de-France. Comment est-ce que vous répondez ?
C'est-à-dire que tout ça est une stratégie rhétorique qui vise à disqualifier et à rendre, à décrédibiliser toute alternative à ce qui se met en place. Après, si on était dans un autre monde et ce que l'on édicte dans ce journal était mis en œuvre et qu'on faisait un faux magazine municipal racontant la vraie politique aujourd'hui mise en œuvre, on dirait mais c'est délirant qu'une mairie mette en œuvre un parc d'attractions à 275 millions d'euros pour redorer le blason de la ville. C'est délirant.
Donc c'est le cas de Calais pour un parc qui s'appelle
Heroic Land. C'est délirant qu'on appelle Heroic Land un tel parc d'attractions alors que effectivement on ne considère pas ces personnes comme des héros et qu'on les jette à la rue. C'est délirant qu'on détruise tous ces restaurants. C'est délirant qu'on détruise toute cette économie. C'est délirant qu'on fasse violence à des personnes qui ont traversé ce que l'on sait, etc., etc. Donc toute cette histoire là qui est la vraie histoire, dit-on, est invraisemblable, est absolument délirante. Et dans un monde marchant un peu à l'endroit, on se marrerait de se raconter ça en disant qu'effectivement cette fiction est délirante et absurde. Donc c'est un renversement de la rationalité de la pensée qu'il faut mettre en œuvre, essayer de forcer le barrage de la pensée, ce barrage qui est mis en œuvre systématiquement. À coup de journal municipal délirant qui pourtant est effectivement publié par la mairie, ou de discours de la préfète qui est effectivement tenu sur une chaîne de radio nationale.
Donc ça veut dire qu'il faut agir ce retournement-là, il faut le faire agir à la fois sur le terrain de la construction concrète, à savoir bâtir des ambassades en bois ou en d'autres matériaux à l'intérieur de camps dits de Rome, mais aussi travailler au renversement sur les discours, sur les images, en produisant des contre-représentations telles que vous faites avec les magazines. C'est-à-dire que c'est à égalité votre travail.
Ah oui, absolument. Bah oui, non, sans la réponse serait technique. D'ailleurs, il y a quelques architectes qui se fourvoient un peu là-dedans. C'est-à-dire que ça devient aussi à la mode, hein, le construire dans le bidonville, etc. Et puis on nous sort des modules. Ça fait 50 ans qu'on sait faire ça. Des algécos de toutes les couleurs, toutes les formes, on sait les faire. La question, elle n'est pas là. La question n'est pas technique. La question est effectivement de l'ordre d'une pensée politique, encore une fois, de l'affirmation, une pensée politique de l'hospitalité. Derrida effectivement raconte cela comme étant de l'ordre d'un impossible, c'est pourtant ce qui est nécessaire à toute construction urbaine. Une ville par définition s'est bâtie sur des actes d'hospitalité et sur des rencontres de personnes qui ne se connaissent pas a priori, c'est deux personnes qui se rencontrent pas et qui font ville. Donc c'est effectivement travailler à construire dans tous les sens du terme de l'espace comme de la pensée, des représentations comme des relations, et c'est ce à quoi on s'emploie en démultipliant les médiums, en démultipliant les actes. Et à Calais, on s'est bien gardé finalement de construire, dans le sens littéral, architectural du terme, parce que on a été subjugué par ce qui se construisait déjà. C'est-à-dire que le Pérou n'avait rien à apporter de plus par rapport justement à cette technique, à cette folie, à cet art de construire et de faire lieu. Donc nous, il nous semblait que ce qui était très très important à faire, c'était de se faire le média de cela, de ce chantier invraisemblable, pour tout le monde et néanmoins qui est vrai et qui est porteur à notre sens des seules politiques publiques d'avenir.
Il y a des endroits, des interstices où vous observez la nécessité d'aider à construire concrètement?
La jungle est vraiment un lieu dans lequel tout le monde trouve à faire. Donc il y a beaucoup de gens qui ont trouvé à faire de construire, effectivement. C'est utile et c'est indispensable autant pour l'épanouissement de la personne qui va aider à construire que pour la personne qui reçoit la construction. Donc en termes de main d'œuvre, il y en a beaucoup dans la jungle déjà. Donc c'est pas vraiment sur le champ de la main d'œuvre que nous avons senti le besoin de venir.
Mais je parlais éventuellement de d'autres terrains d'action du Pérou et pas uniquement à Calais.
Charlotte a fait un travail remarquable, par exemple en Essonne. Évidemment qu'il y a des questions techniques qui se posent. Comment on draine les eaux de pluie, ce qui est pas forcément l'enjeu premier d'un bidonville de famille roumaine quand il s'établit. Comment on crée des systèmes d'aération des baraques parce que les personnes vivent au quotidien dans des espaces surchauffés, surenfumés. Donc il y a des éléments comme ça, il y a des points précis où l'intervention de l'experte qui est Charlotte par exemple est nécessaire pour accompagner ce qui se construit et ça à mille endroits bien sûr. Donc les échanges de savoir et savoir-faire ont lieu dans les deux sens. Arrêtons de penser que le Rome est un fin bricoleur et qu'on a tout à apprendre de lui. Il a aussi tout à apprendre de Charlotte, comme de mille autres experts, etc. Donc il y a fort à faire, il y a beaucoup à faire, oui. Mais il y a aussi, c'est pareil, c'est comment des actes constructifs sur la scène publique, sur la dramaturgie des choses, sur la scène politique, sont aussi à faire aussi ardemment et précisément qu'un chantier sur une baraque. Le chantier est vaste et on part de très loin. Donc,
y compris légalement, parce qu'évidemment vous partez d'un texte légal de cet arrêté municipal pour réfléchir, en tout cas cette fois-ci, pour le livre et puis aussi pour le magazine. Évidemment, c'est quelque chose qu'on répond, mais c'est une occupation illégale, d'un terrain qui n'est pas fait pour ça. Vous écrivez noir sur blanc, il est possible de faire autrement, légalement.
Bien sûr, le droit, c'est pareil, c'est bien la raison pour laquelle on commence par lire un texte. Le lire, c'est l'incorporer, le lire, c'est l'interpréter. Le droit est un terrain à prendre aussi. Le droit est plein d'espaces à prendre, plein de friches. Il faut qu'on sache s'y loger, qu'on sache déplacer les murs de ce droit-là. Et on a 1000 ressources aussi. Il y a une jurisprudence extraordinaire européenne qu'on est en train de consigner sur le site dédié à l'appel à projet Réinventer Calais. Ce travail que l'on a fait d'interprétation du texte, on l'a fait aussi avec des juristes. Il y a des ressources immenses qui sont tenus loin du regard, comme peut l'être tenu loin du regard tout ce qui s'invente à Calais, par exemple. Donc, emparons-nous de tous ces espaces, de toutes ces ressources. Et le droit est un formidable atout, un formidable compagnon pour inventer et accompagner ce qui s'invente et ce qui ne peut. Juste ce point, je veux dire qu'on n'est pas, on ne défend pas des. Je sais pas, on défend pas des pauvres, des faibles. Voilà, on défend le réel. Je veux dire que on est face à quelque chose de formidablement. Quelque chose nous arrive dans la figure. Calais, c'est 6000 personnes. Ris-Orangis, c'était 150. Tout ça est quand même mineur par rapport à ce qui va nous arriver dans la figure en Europe, eu égard à toutes les crises que l'on connaît à l'échelle mondiale. À Calais, c'est pas des migrants qui sont là, c'est le monde. C'est le monde à venir, qu'on le veuille ou non. Donc il va falloir qu'on change de régime et de pensée et d'action, absolument. Et donc voilà, c'est ce sur quoi on travaille. Et on a bien... Voilà, il est nécessaire, c'est pas tant qu'on le désire, c'est pas tant que il est juste nécessaire de changer notre regard, nos représentations et nos politiques publiques, parce qu'on va dans le mur et on ne cesse de s'embourber dans un 20e siècle révolu et c'est là où se trouvent aujourd'hui les politiques publiques que l'on connaît.
Et y compris là où elle se trouve financièrement, c'est un argument qui revient souvent. Vous faites un tableau comparatif dans ce Calais Mag entre justement la portion et la proportion de ce budget global alloué à un parc d'attractions de 275 millions d'euros et sous qui sont engagés ou seraient engagés à la création ou la consolidation d'espaces de vie, d'espaces de partage à Calais dans ce camp, mais aussi dans la municipalité. Cet argument financier n'est pas entendu par les interlocuteurs de la puissance publique que vous pouvez rencontrer. C'est pourtant quelque chose qui est généralement assez entendu.
Parce qu'il ne s'agirait quand même pas de faire entendre que tout ce que l'on a dépensé jusqu'alors est démesuré, délirant et absurde. Il y a ces 275 millions d'euros, il y a 18 millions pour la sécurisation du port, 51 millions pour la sécurisation du tunnel, des barrières à n'en plus finir, je ne sais pas combien ça coûte au mètre carré, c'est délirant, 150 000 euros par jour, simplement pour avoir des flics sur le territoire de Calais, 50 000 euros par jour pour les héberger dans les hôtels. La gabegie est immense et donc ne serait-ce qu'à venir sur ce terrain-là, qui est pourtant très rationnel, raisonnable, ça serait faire entendre la déraison qui gouverne aujourd'hui. Donc évidemment, on fait barrage, font barrage comme à tous les autres endroits dont on parle.
Vous n'avez pas d'interlocuteur. Il n'y a pas de terrain de possible discussion avec les différentes puissances publiques sur la question financière.
Mais on a des interlocuteurs, puisque de toute façon, les recherches que l'on conduit sont en partie financées d'ailleurs par des organes publics, notamment le PUCA, qui est un organisme interministériel, qui est très demandeur de ces questions-là. Donc ici ou là, oui, on a des relations de travail, on a des relations parfois on en discute avec certains élus et ça a lieu, mais en l'occurrence pas avec ceux qui sont intéressés aujourd'hui même par le dossier et une chape de plomb demeure sur cela et on engage et réengage des millions et des millions d'euros prétendant que la raison se trouve là.
Alors, demeure sur quoi cette chape de plomb? Puisque s'il est moins coûteux de construire et consolider que de détruire, voire beaucoup, beaucoup moins coûteux, alors c'est une chape de plomb qui existe sur quelle idée du monde à venir ou du monde présent?
Alors, il faudrait peut-être les inviter eux et puis qu'ils en parlent, ils en témoignent et qu'ils y répondent. Comment se fait-il que le blocage est à ce point effectif? C'est évidemment un retournement du monde assez radical que ceci engagerait, c'est-à-dire que ça veut dire que, comme le dit Derrida, l'hospitalité qui peut être inconditionnelle, c'est-à-dire que ça met en branle tout le régime de pensée actuel consolidé sur effectivement de l'identité, sur des frontières, sur une fable méritocratique prétendant que effectivement il y a des légitimes et des illégitimes, sur voilà, enfin je veux dire, on voit bien ce qui gouverne en termes de pensée aujourd'hui le monde, et qui, si on mettait ce ver dans le fruit d'ailleurs assez dégueulasse du monde aujourd'hui, ce fruit tomberait de lui-même. Donc il y a quand même tout un échafaudage de pensée qui est articulé autour de cette chape de plomb, et que celle-ci fait tenir. Donc oui, l'hospitalité inconditionnelle, voyons voir ce que politiquement ça pourrait donner. Ça donne un monde absolument renversant, et ça fait se renverser le monde que l'on connaît aujourd'hui.
Alors ça a déjà lieu, vous en témoignez l'un et l'autre, et par différents outils. Cependant, est-ce que ça peut avoir lieu à l'échelle souhaitée si ça n'en passe pas par les pouvoirs publics? C'est-à-dire que si c'est une résistance qui continue d'être opposée, est-ce qu'il y a un horizon pour cette construction et cette hospitalité?
Un horizon de fait, de facto, je vois pas comment on la chape de plomb, enfin le barrage cédera et cède de toute façon, puisque on voit bien, malgré tous les millions engagés, malgré les frontières, les barbelés, malgré tout cela, qu'Calais a lieu, Calais fait lieu. Donc on travaille sur le temps long. De toute façon, c'est pas nous qui, encore une fois, critiquons les politiques publiques conduites, c'est le monde tel qu'il vient qui rend absurde ce qui est effectivement aujourd'hui mis en œuvre. Donc le temps long donnera raison à Derrida, le temps long donnera raison à ce qui s'invente à Calais. On essaie de prendre un peu d'avance avec nos petits moyens, et puis on sait qu'on a d'autres camarades qui travaillent ardemment aussi. Voilà, prenons le temps, les moyens, faisons-le méticuleusement, précisément, de s'armer et d'essayer de nous-mêmes nous armer de ressources, nous armer de camarades qui sont multiples, des étudiants que l'on a dans nos écoles et qui sont pleins de désirs et qui sont dans ce monde qui vient aussi, pour faire face, être droit devant le monde qui vient et pouvoir l'accompagner. Donc de toute façon, ce qui aujourd'hui est mis en œuvre par les acteurs publics à Calais sera balayé par le monde qui vient.
You are listening to France Culture, Les Nouvelles Vagues par Marie Richu.
Mike Ladd is speaking. 14h52 bientôt sur France Culture. Il y a un peu plus d'un an, elle a posé la première pierre symbolique de la maison des femmes qui jouxte l'hôpital à Saint-Denis, alors qu'elle n'avait pas encore du tout d'ailleurs réuni le budget nécessaire à sa construction. Rada Atem a tenu le pari. La maison des femmes ouvrira en juin. Elle est l'invitée de cette séquence au singulier toute la semaine, et elle raconte aujourd'hui son amour pour les villes frontières.
Peut-être Istanbul, qui est la plus emblématique pour moi, mais j'aime beaucoup aussi les villes andalouses, pour la même raison en fait, parce qu'elles me réconcilient avec ma double identité, orientale et occidentale, et qu'elles en sont une parfaite synthèse. Une synthèse dans la beauté, dans le respect. Toutes ces cathédrales, basiliques, mosquées, qui n'arrêtent pas de changer d'identité au fil des ans, et qui sont toutes plus belles les unes que les autres, me touche, et toute cette architecture hispano-andalouse, mauresque, mudéjar ou je ne sais quoi, sont vraiment des architectures qui réveillent des souvenirs anciens pour moi de Beyrouth, du temps où c'était une très belle ville avant d'être une ville massacrée. Et puis il y a aussi les odeurs, par exemple Istanbul, le marché, que j'ai découvert il y a une quinzaine d'années, c'était mon premier voyage à Istanbul. Et j'avais vraiment l'impression d'être à Beyrouth, et d'une ville qui m'est chère, évidemment, parce que une Beyrouth qui n'aurait pas connu la guerre, qui serait restée propre et qui aurait continué à se développer, et qui aurait quand même continué à mixer tout ce qui fait son essence, c'est-à-dire un peu d'Orient, un peu d'Occident, un peu de tradition juive, un peu d'immigration arménienne. Et c'est ça que j'aime dans ces villes.
Est-ce que vous trouvez des villes frontières en France?
Non, aucune qui m'ait fait le même effet. Non. Paris est une ville magnifique, et Paris est un musée, Paris est homogène. Paris a une histoire très linéaire et ne me fait pas du tout le même effet. C'est là que je vis.
Quand vous parlez des villes frontières, vous évoquez aussi Cordoue, par exemple. C'est une ville que vous découvrez à quelle occasion ?
À l'occasion d'un voyage étudiant. J'achète ma première voiture et deux jours après, je prends la route avec une copine et on traverse l'Espagne. Et on arrive à Cordoue, Grenade, Séville, et là, c'est l'émerveillement. La grande mosquée, c'est quand même un endroit extravagant. Toutes ces colonnes, c'est, comment ils disent, les arcs outrepassés. J'adore ce mot, ça, outrepassés. Quand on est enfant, on apprend les Arabes, on envahit l'Andalousie, etc. La plus belle époque de l'histoire arabe. Et puis après, ils sont partis en laissant des héritages. Et celui-là, je trouve, est particulièrement magnifique. J'étais à Séville pour raisons professionnelles la semaine dernière. Et dans la Giralda, il y a une espèce de petit musée. Et là, il y avait une vitrine avec deux clés. Il y avait les clés de la ville occidentale et la clé de la ville occidentale, la clé de la ville orientale. Beau symbole.
Beau symbole, en même temps, c'est pas mélangé. C'est-à-dire que ça reste deux parties très distinctes de la ville.
Oui, mais elles sont sur le même trousseau.
Par le duo Yes, qui me permet de glisser deux, trois choses. La première, puisqu'on a promis de le faire jeudi 28 avril 2016 à 20h à la Conjuration des Fourneaux, rue Saint-Hilaire à Rouen. C'est une deuxième soirée d'un cycle sur 4 mois qui s'appelle Habiter l'autre ville foraine autour du livre Ville nomade du collectif Échelle inconnue porté par Stanny Cambeau. Mais aussi, puisque nous avons parlé de réinventer Calais, c'est à la fois un portail sur Internet qui est un portail ressources où on peut aller lire, voir des images, se renseigner, mais c'est aussi un appel auprès de qui, Charlotte Cower?
Un appel auprès de tous ceux qui pensent avoir quelque chose à dire, à faire et à réagir par rapport à ce qu'ils entendent et ce qu'ils voient. Donc effectivement, il est écrit que c'était un appel à l'adresse des architectes, designers, dessinateurs, anthropologues, etc. Mais la forme voulue est vraiment ouverte, afin que justement les spécialistes ne soient pas spécialistes.
Considérant qu'il est plausible que de tels événements puissent à nouveau survenir, c'est cette proposition faite à plusieurs auteurs autour de ce texte et de l'art municipal de détruire un bidonville. Ça peut se trouver aux éditions Post-Édition. Et on a tout dit, simplement signaler que Calais Magbe peut se trouver à la Cité de l'Architecture à Paris, mais aussi dans divers lieux à Calais. Voilà.
Et que si on n'est pas ni à la Cité, ni à Paris, ni à Calais,
on peut
nous envoyer
un petit
mot et puis on vous l'envoie avec plaisir.
Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi. Les Nouvelles Vagues se réécoutent sur franceculture.fr, on peut aussi se parler. Romain Debec de Lièvre, Inès Duperron, Alice Ramon, mais aussi Léna Burger ou encore Liscom qui réalise l'émission de Pense et réalise et fabrique cette émission avec moi, ils la construisent, mais Pierre Consigné était aux manettes et Paul Simonacci au droit d'auteur.